France Culture.
Et c'est reparti pour les midis, deuxième partie. Bienvenue à toutes et à tous. À 13h, comme promis, on discutera avec Eva Ionesco. Mais tout de suite, c'est le retour de Marie Sorbier avec le Point Culture.
Bonjour à tous. Un nouveau lieu culturel ouvre ses portes aujourd'hui même à Avignon. La Villa Créative, c'est son nom, est dédiée à la recherche et à l'innovation, mais accueille aussi les acteurs de la culture et les industries créatives. La présentation des enjeux de ce lieu pour le moins hybride, c'est le dossier du Point Culture du jour. Anne-Lise Rosier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de cette nouvelle villa créative à Avignon. Alors peut-être que l'adjectif qui lui correspond le mieux, c'est hybride, car ce lieu se veut être au croisement des sciences, de la société, de la culture. Vous aimez le définir comme une université en dehors de l'université. Alors très concrètement peut-être, quel est l'objet de cette villa créative ?
Oui, tout à fait. La Villa Créative est un lieu hybride. Alors, ça demande nécessairement une nouvelle définition. La Villa Créative a été pensée comme un carrefour au croisement des chemins entre l'art, la science, la technologie, l'entrepreneuriat. C'est un lieu de l'université, mais qui a décidé d'y associer des acteurs à la fois publics et privés pour servir les missions de service public.
Alors, par exemple ?
Eh bien, par exemple, nous avons décidé d'implanter dans ce lieu dans lequel il y aura nos laboratoires de l'université, dans lequel il y aura des formations dispensées par l'université, des acteurs tels que l'École des Nouvelles Images, qui est une école qui forme 250 étudiants chaque année à la création de films d'animation, mais aussi des studios de films d'animation, jeux vidéo, e-gaming, pour créer tout un écosystème, un laboratoire finalement vivant, où vont se croiser des étudiants, des chercheurs, des enseignants, des artistes, mais aussi des personnes de la société civile pour ensemble collaborer et innover.
Alors peut-être pour qu'on se rende bien compte de ce dont on parle, vous êtes installé au cœur d'Avignon, hein, dans l'ancienne école normale. Est-ce que ce projet, c'est aussi, ou peut-être c'est d'abord une histoire de réhabilitation patrimoniale ?
Oui, tout ce projet a débuté peut-être à l'envers, d'abord en fait par un lieu de 8200 m² avec 3000 m² de jardin merveilleux en plein cœur d'Avignon, intramuros, et par une réhabilitation donc, de ce bâtiment du 19e siècle qui est composé donc, en tout de 5 pavillons. Et donc cette réhabilitation a été confiée à l'architecte Alfonso Femia et Della Architecte, qui en doit notamment les docks à Marseille ou encore la poste du Louvre à Paris. Voilà. Et oui, ça a d'abord commencé par ce lieu, retrouver ce lieu et le confier aussi aux Avignonnais, aux curieux, aux touristes et aux personnes, bien évidemment, de la filière des industries créatives et culturelles, tout en s'appuyant eh bien, sur les forces d'une université.
Alors, vous parlez d'université, est-ce que ça veut dire que l'école, par exemple, dont vous venez de parler, ou d'autres, est-ce qu'il va y avoir des formations diplômantes ? Est-ce que c'est avant tout un lieu pour les étudiants ?
Alors, bien évidemment, il y aura des formations diplômantes. C'est un lieu pour les étudiants, mais pas que. Je pourrais, par exemple, être avignonnais, décider de rentrer dans les jardins, d'aller boire un café à la brasserie, parce que ça sera un lieu de vie aussi où on va offrir une restauration, m'installer dans une chaise longue dans les jardins et découvrir eh bien, que ce soir, il y a une conférence qui est donnée par une artiste du Festival d'Avignon. Je pourrais y découvrir une exposition. Bien évidemment, tout y est gratuit, ouvert à tous, donc exposition proposée par le Centre culturel canadien du photographe international Edward Bertinsky. Je pourrais aussi eh bien, décider de contribuer à un programme de recherche aux côtés d'enseignants-chercheurs, d'étudiants, d'élus, de personnalités en fait, de la société civile pour, par exemple, développer des dispositifs de casque de réalité virtuelle. Bref, vous le voyez, c'est un endroit qui est foisonnant. Et c'est un endroit, encore une fois, qui est véritablement ouvert à tous.
Alors la culture, comme l'enseignement supérieur d'ailleurs, voit leurs subventions publiques s'effondrer depuis quelques mois. Comment allez-vous financer ce nouveau lieu ?
Nous avons décidé à l'Université d'Avignon de créer un nouveau modèle, d'être pionnier en créant une société universitaire et de recherche. C'était un dispositif qui était ouvert aux universités il y a quelques années par le Secrétariat général pour l'investissement et qui nous permet aujourd'hui d'avoir créé une société par action simplifiée avec à la fois l'université en qualité d'actionnaire, la Banque des territoires et une société qui répond aux valeurs de l'université, la société éthique foncièrement responsable, qui nous permet aujourd'hui eh bien, de pouvoir gérer cet espace avec de la location d'espace auprès de structures qui doivent nécessairement rentrer en cohérence avec les missions de service public de l'université. Mais c'est ce dispositif public privée. C'est cet attelage qui aujourd'hui nous permet d'avoir un total autofinancement du fonctionnement bâtimentaire du lieu.
Ce qui veut dire que ce lieu donc peut s'autofinancer grâce, c'est ce que vous venez de dire, aux locations, et c'est ce qu'on vous demande. C'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à zéro à la fin de l'année et que ce bâtiment ne coûte pas aux Avignonnais.
Exactement, ça ne doit pas coûter à l'université au-delà de ce qu'elle use dans ce lieu. Et ce modèle d'autofinancement nous permet de financer les besoins bâtimentaires. Et là, j'insiste. En revanche, pour les programmes, pour les projets de recherche, nous sommes dans l'obligation aujourd'hui d'aller chercher effectivement des fonds, des soutiens, du mécénat. Mais pour ce qui est aujourd'hui du fonctionnement de ce lieu singulier de 8200 m², oui, nous avons trouvé un modèle qui nous permet aujourd'hui de créer des emplois, de pouvoir financer ses besoins en ressources, de pouvoir payer l'eau, l'électricité, les fluides.
Quand je vous écoute, en effet, c'est un modèle dont on n'a pas forcément l'habitude en France, mais c'est un modèle qui existe à l'étranger. Je pense notamment aux facultés américaines qui ont déjà ce modèle public-privé. Est-ce que c'est votre référence ?
Non, ce n'est absolument pas notre référence. Je pense qu'il faut bien distinguer ce qui peut parfois s'apparenter effectivement à un investissement du privé dans le champ du secteur public, peut-être parfois pour y avoir une emprise. Or, ce n'est pas du tout le cas dans la Villa Créative. Nous avons posé des garde-fous d'importance. L'université est majoritaire dans cette société d'exploitation. Et surtout, et avant tout, la programmation de ce lieu est pensée collectivement par un système de collège participatif. Et c'est uniquement entre les mains des acteurs universitaires qui vont composer la programmation. Voilà pourquoi nous avons posé de grands garde-fous et qu'aujourd'hui, dans ce modèle-là qui est proposé, c'est le service public qui s'appuie effectivement sur du secteur privé, mais c'est le secteur privé qui vient là au service des missions de service public.
Un dernier mot sur les artistes avant de vous laisser à l'inauguration, Anne-Lise Rosier. vous parliez d'Avignon notamment. Donc c'est Mathilde Monnier, la chorégraphe, qui avait déjà commencé son projet avec le Festival d'Avignon l'année dernière, qui prend place à la Villa Créative. Est-ce à dire qu'en fait le Festival d'Avignon va être dans vos murs toute l'année et pas seulement en juillet ?
Alors, il y aura un temps fort, bien évidemment, pendant le mois de juillet. Mais oui, nous avons déjà des collaborations soutenues avec le Festival d'Avignon tout au long de l'année. Et justement, la Villa Créative a été pensée pour être un lieu ressource, un lieu de fédération à l'année. Donc, nous allons également accueillir le Frames Web Festival qui réunit les youtubeurs et les entreprises du numérique chaque année. Nous allons également accueillir dans un dispositif de la Commission européenne, un artiste comme Di Meglio pour y implanter une cabane réalisée en matériaux biosourcés. Nous allons également accueillir un autre programme art combinatoire avec le laboratoire Matrice et puis l'artiste Rocio Berenguer. Bref, vous le voyez, nous avons en fait tout au long de l'année de l'accueil d'artistes en résidence, de festivals et bien évidemment un programme scientifique qui sera soutenu puisqu'aujourd'hui nous avons déjà programmé près de 50 événements à partir de demain, jour de l'ouverture, jusqu'à décembre déjà 2025. Et chaque année, nous aurons deux appels à projets pour sélectionner les artistes, les événements scientifiques qui voudront se tenir dans notre espace.
Bien, merci beaucoup Anne-Lise Rosier et puis belle ouverture alors.
Merci infiniment.
Et dans le reste de l'actualité, Marie, le prix Jean d'Ormesson a été décerné hier.
Le prix veut célébrer le bonheur de la lecture. Aucun critère n'entravant le choix des 11 jurés, créé en 2018 en hommage à l'écrivain académicien. Il récompense cette année l'écrivain Olivier Guèze pour son roman Mésopotamia, publié chez Grasset. Il succède ainsi à Laure Murat avec Proust, un roman familial sorti chez Robert Laffont.
Et pour finir, Marie, un tarif spécifique sera appliqué aux extra-européens dans plusieurs musées.
Oui, à partir de 2026, les touristes qui viennent de l'extérieur de l'Europe paieront plus cher leur billet d'entrée au château de Versailles, au château de Chambord, à l'Opéra Garnier ou pour accéder à l'Arc de Triomphe ou à la Conciergerie. Ces derniers emboîtent le pas au Louvre pour lequel ce choix a déjà été annoncé en février dernier. L'objectif est d'augmenter leurs recettes dans un contexte d'austérité budgétaire pour la culture et de frilosité du mécénat. Le surplus récolté pourra notamment permettre le financement de travaux. D'autres musées pourraient imiter la démarche en 2027.
Merci Marie et on se retrouve demain pour d'autres actualités culturelles.
À demain.
En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.